Berlin.
It's morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons à Taïwan, où c'est le parti qui s'oppose à toute réunification avec Pékin qui gagne haut la main. Un parti, deux systèmes, c'est sans nous, disent les Taïwanais. On mettra évidemment le résultat de ce week-end aussi en miroir avec ce qui se passe depuis ces dernières semaines à Hong Kong. Le bruit du monde est à Bombay avec une forêt urbaine que les habitants essaient de se protéger. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier, nous emmènera dans le Montana où les glaciers ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Nous irons aussi au Bangladesh dans un rassemblement musulman géant. 18h50, le monde selon Trump, saison 3 avec Grégory Phillips, ou comment l'affaire de la couronne britannique intéresse aussi Donald Trump et où surtout on se prépare au premier caucus, celui de l'Iowa. 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, ou comment la Russie bat toutes les rebats, toutes les cartes. C'est elle le faiseur de paix en ce moment. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Philippe Lecor. Vous êtes spécialiste de la Chine, de l'Asie du Sud-Est. Vous êtes chercheur à la Harvard Kennedy School, notamment. La présidentielle de samedi à Taïwan, Philippe Lecor, a donc reconduit celle qui était déjà au pouvoir, reconduite de très belle manière, 57,1%. Ça veut dire 8 millions des 23 millions de Taïwanais, ce qui fait quand même un certain chiffre. Les séparatistes taïwanais laisseront une odeur répugnante pendant 10 000 ans. C'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie chinoise aujourd'hui. Ils sont très très mauvais perdants, les Chinois, d'autant que la Chine n'avait pas économisé ses efforts pour faire monter le parti pro-Pékin. C'est ça le sens de cette remarque?
Ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes les tentatives effectivement d'infiltrer Taïwan, l'île de Taïwan, à travers Internet, à travers...
Des ferlandes de fake news.
Incroyable, mais depuis des années. Taïwan, si vous voulez, concentrait un petit peu toute la propagande qu'on pouvait imaginer venant de Chine. Et puis, il y a aussi l'aspect de la dépendance économique que Pékin cherche à imposer à Taïwan depuis longtemps. Donc, il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que tout le monde disait, il y a encore un an, Taïwan ne sera jamais réélu. Or, il y a eu depuis un an un certain nombre de phénomènes. Vous parliez de Hong Kong, effectivement,
bien sûr, je pense on y reviendra,
que
c'est
évident. Mais il y a eu aussi le fait que la Chine, le régime chinois tel qu'il est aujourd'hui, est finalement rejeté par de plus en plus de peuples chinois ou à moitié chinois qui sont en tout cas dans la périphérie. Et je crois que les Taïwanais en particulier ne veulent pas de cette formule un pays de système. Ils n'en ont jamais voulu. Mais il est vrai que le parti Kuomintang, représenté par le perdant, l'opposant Han Kuo-yu de Madame Tsai, lui, il était prêt à négocier éventuellement avec Pékin. En tout cas, son prédécesseur avait rencontré Xi Jinping.
Prêt à négocier, en même temps, on a l'impression à Taïwan que si on arrive en disant un pays de système, c'est une bonne idée, on est de toute façon tout de suite très 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 loin dans les intentions de vote. C'est un repoussoir, au fond, cette formule pour les Taïwanais.
C'est une île, si vous voulez, qui n'a jamais été occupée par le Parti communiste chinois. Elle est chinoise. À l'origine, c'était des aborigènes. Ensuite, il y a eu des vagues d'immigration du continent. Donc, ils sont ethniquement chinois, on peut dire la majorité. Mais ils n'ont jamais été sous la coupe du Parti communiste.
D'ailleurs, quand on dit réunification, je vous coupe, Philippe Lecor, mais en fait, c'est tout à fait impropre, en fait. Il n'y a pas de réunification, il n'y a jamais eu d'unification en soi. En fait, Taïwan n'a jamais été chinoise. Au bout du compte, c'est plutôt une narrative chinoise, ça, non?
Si, Taïwan a été... C'est la République de Chine, c'est-à-dire qu'en 1949, lorsque les communistes ont gagné la guerre civile en Chine, les nationalistes, le Kuomintang, donc les perdants aujourd'hui, sont allés avec Chiang Kai-shek, qui était le fondateur, le président, pas le fondateur de la République de Chine, à Taïwan, avec 1 million de personnes, et se sont installés sur cette île de Taïwan dans l'espoir de reprendre le continent, ce qui était évidemment un leurre à l'époque. Et depuis, évidemment, de dictature, ils sont passés en démocratie, c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'est passé. Il y a maintenant des élections démocratiques depuis 1996, malgré de nombreuses menaces de la part de Pékin, etc. Et notamment quand ce sont des candidats opposés à la réunification du DPP, qui est le Parti démocratique progressiste que représente Madame Tsai. Elle a aujourd'hui le plus grand score obtenu depuis qu'il y a des élections démocratiques à Taïwan.
Mais du coup, elle gagne contre la Chine ou elle gagne malgré la Chine? Ou les deux, mon capitaine?
Les deux, parce que la propagande chinoise a été telle que on peut dire que ça a été effectivement un repoussoir parmi l'électorat de Taïwan, qui ne veut pas d'une réunification. Vous avez alors par ailleurs un phénomène économique intéressant, c'est que vous avez des entreprises taïwanaises qui reviennent sur l'île de Taïwan. Mmh. Et finalement, il y a aussi un Taïwan qui bénéficie de la guerre commerciale sino-américaine.
Les vrais grands gagnants, c'est eux, en fait. Parce qu'on rapatrie les entreprises à Taïwan pour qu'elles évitent les droits de douane qui sont devenus astronomiques entre la Chine et les États-Unis. Donc, on gagne de l'argent à Taïwan en ce moment sur cette guerre économique, non ou pas?
Oui, on peut dire ça. Enfin, c'est-à-dire que, bon, bien entendu, vous avez aussi beaucoup d'investissements taïwanais en Chine. Hein. Il y a une imbrication quand même régionale. Si vous voulez, depuis 30 ans, les Taïwanais ont énormément investi et travaillent avec les Chinois. Mais là, il y a un phénomène effectivement récent qui va un peu contre l'histoire et donc qui participe, je dirais, du rejet du système autoritaire mis en place par Xi Jinping et qui est d'ailleurs rejeté aussi par des gens à l'intérieur, même si on les entend moins. Mais clairement, ce qui se passe à Taïwan, ce qui se passe à Hong Kong sur un autre registre, prouve que ce n'est pas si simple d'établir un régime comme ça, de répandre le régime communiste autour de la Chine populaire.
Un Xi Jinping donc effectivement fragilisé, mais la seule manière au fond de l'entendre se passe à Hong Kong et à Taïwan. Est-ce que d'une certaine façon, Hong Kong et Taïwan sont un peu aussi les porte-parole de ce qui se passe même à l'intérieur de la Chine dans certains endroits, pour pouvoir dire non à Xi Jinping de toute façon et pouvoir voter, il n'y a pas 36 autres solutions. Est-ce que c'est ça aussi l'explication de ce résultat, de ces résultats?
C'est-à-dire que Taïwan est le seul endroit où vous pouvez voter démocratiquement en Chine, sur le territoire chinois, puisque la Chine elle-même considère que Taïwan est une province chinoise. Hong Kong étant une région administrative spéciale, et comme vous le savez, le vote n'est pas majoritaire.
Non, mais il y a eu ces élections régionales en novembre, par exemple, qui ont dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes
pour
là-dessus.
Les démocrates, et vous aurez des élections donc législatives en septembre, donc les prochains mois vont être très intéressants à Hong Kong, puisque effectivement, dans le prolongement de ce qui vient de se passer à Taïwan, donc vous avez effectivement un jeu de miroir entre les deux, il y aura sans doute des interférences de la part de la Chine. La Chine a récemment changé son représentant à Hong Kong. La Chine va sans doute tenter de trouver une façon d'expliquer davantage aux Hongkongais qu'ils font partie du peuple chinois. Ethniquement, ils en font partie, mais quand vous discutez avec les Hongkongais, de même que quand vous discutez avec les Taïwanais, ils se considèrent comme différents. Ils ont une histoire différente, ils ont une tradition différente maintenant, et ils ont un système politique différent, ils ont le droit de voter pour ou contre. Et c'est très important pour eux, et en Chine, ça n'est pas possible.
Mais d'ailleurs, Tsai Ing-wen, qui vient de gagner les élections, avait de toute façon apporté son soutien à Hong Kong. Est-ce qu'il y a eu des allers-retours réellement d'opposants hongkongais jusqu'à Taïwan et inversement ou pas?
Vous avez par exemple quelqu'un qui depuis longtemps est installé à Taïwan, c'est Jimmy Lai, qui est un éditeur très connu à Hong Kong, Apple Daily, qui est un des journaux les plus provocateurs, disons, à Hong Kong, et notamment qui est sorti un certain nombre d'affaires sur les dirigeants communistes chinois, enfin qui attaquent sans vergogne, je dirais, le système politique. Vous avez des dissidents chinois aussi qui sont à Taïwan. Hua Kaishi, qui était une des stars, qui était le numéro 3, je crois, sur la liste des étudiants les plus recherchés après les événements de Tiananmen, habite à Taïwan, et de même que Wang Dan. Donc vous avez des personnalités à la fois du continent, à la fois de Hong Kong et de Taïwan. Et effectivement, il y a eu des relations, même si la langue n'est pas la même, c'est le mandarin dans le cas de Taïwan, et la langue locale, le minanrois, et puis évidemment à Hong Kong, c'est le cantonais. Mais il y a quand même, il y a eu une connivence entre ces deux territoires, et un rejet commun de la formule un pays, deux systèmes.
Le parti démocrate progressiste qui remporte ces élections est dit parti indépendantiste, mais en soi, ce qu'il demande, c'est pas une indépendance pure et simple. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils demandent en fait? Comment on peut les qualifier réellement, si indépendantiste est peut-être un terme un peu
absolument
un peu mauvais?
Ils ont, si vous voulez, supprimé de leur statut la clause indépendantiste, parce que justement ils savent que c'est un casus belli vis-à-vis de la Chine. Donc ils savent bien que ça peut provoquer les ardeurs nationalistes, notamment des militaires chinois. Rappelons quand même que l'armée chinoise est quand même prête à envahir Taïwan. ce serait un cauchemar logistique d'envahir Taïwan. Mais c'est,
mais ça, il y a eu des menaces,
des possibilités.
Même très récemment, le 2 janvier dernier.
Ça vient régulièrement. Donc je pense que ce que veut ce parti, c'est maintenir une autonomie politique, une autonomie économique et surtout une existence diplomatique. Et ça, effectivement, c'est là que la Chine, je dirais, cherche à couper l'herbe sous le pied de ce régime taïwanais en faisant pression sur de nombreux pays en Amérique latine, en Afrique, pour qu'ils rompent leurs relations diplomatiques avec le gouvernement de Taïwan.
Alors allons voir justement comment ça se passe à l'intérieur de Taïwan. Dominique André était là-bas pour couvrir ces élections. Voici ce qu'elle ramène. On écoute son reportage, on se retrouve après.
Le chant du PDP, le parti de Tsai Ing-wen, résonne dans les rues de Taipei, la capitale de Taïwan. Madame Tsai, 63 ans, remporte la présidentielle avec plus de 57% des voix contre son adversaire du Kuomintang, Han Kuo-yu. Le combat pour la démocratie et la liberté à Taïwan a été au centre des élections. Tsai Ing-wen, samedi soir, à l'heure de la victoire.
Le résultat de cette élection est la voix du peuple taïwanais ainsi que la voix de la démocratie. Le monde entier nous a entendus. Je suis sûre que l'autre rive nous a aussi entendus.
3 millions de jeunes électeurs ont été courtisés par les deux grands partis, mais ils ont voté vert pour le PDP et non bleu pour le Kuomintang, qui milite, lui, pour un rapprochement avec la Chine.
Ouais, je suis heureuse, très heureuse que Tsai Ing-wen ait gagné. On n'est pas la Chine, on est Taïwan. Tsai Ing-wen est la meilleure présidente qu'on ait jamais eue. Car elle seule a réussi à résister à la Chine. Nous ne voulons pas prendre le même chemin que Hong Kong.
Pékin rappelle sa position, il n'y a qu'une seule Chine et Taïwan en fait partie. Ces résultats ne changent rien pour la Chine qui veut faire accepter à Taïwan le principe un pays, deux systèmes, qui régit déjà ses relations avec Hong Kong. Mais ce couple d'ingénieurs n'en veut pas.
Les élections de cette fois-ci montrent que le peuple taïwanais refuse le modèle un pays, deux systèmes. Les résultats sont clairs.
Nous sommes d'accord avec la fermeté de Tsai Ing-wen. Nous ne voulons pas d'un rapprochement avec la Chine. Nous voulons au contraire préserver une distance.
Malgré les critiques du Kuomintang sur l'économie, les Taïwanais valident la politique du gouvernement de Tsai Ing-wen qui a engrangé 1 300 000 suffrages de plus qu'en 2016. Mais les menaces qui pèsent sur la petite île démocratique inquiètent beaucoup de Taïwanais.
Dominique André pour le reportage à Taïwan. Philippe Lecor, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement dans ce que nous a expliqué Dominique André, les jeunes électeurs. Il y a un puits monumental au fond entre ces électeurs-là, ceux qui ont porté à nouveau cette femme au pouvoir, et les électeurs du Kuomintang qui, eux, sont vieillissants, comme une vieille histoire au fond, non ?
Ben, vous savez, moi j'ai vécu à Taïwan à la fin des années 80, il y avait encore des gens qui étaient nés sur le continent, donc ils racontaient des histoires de Chine. Et là, 30 ans plus tard, évidemment, il n'y en a plus des gens comme ça. Donc il y a des gens d'origine continentale qui se réfèrent encore à des coutumes chinoises. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que Taïwan est plus chinoise que la Chine, parce que les caractères chinois sont des caractères traditionnels, on fait certaines choses qu'on ne fait quasiment plus en Chine. On respecte les religions aussi, que ce soit des religions chinoises des religions occidentales.
Mais ça veut dire que quand on est un jeune Taïwanais, on ne va pas faire ses études en Chine, par exemple. On ne va jamais mettre les pieds sur le continent. Il n'y a jamais d'aller-retour de ce sens-là.
Si, il y a eu énormément d'aller-retour dans les années 90, dans les années 2000, parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités économiques. Il y avait des entreprises taïwanaises et il y avait des entreprises chinoises qui recrutaient effectivement des Taïwanais. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe depuis 5 ou 6 ans, depuis l'arrivée de Xi Jinping, est un repoussoir pour beaucoup de jeunes Taïwanais, de même qu'il l'est pour les jeunes hongkongais. Alors, bien entendu, les Taïwanais, d'une certaine manière, ont plus d'espoir parce qu'ils ont un passeport qui leur permet de se déplacer. Ils sont plutôt les bienvenus, malgré le fait qu'il y ait peu de relations diplomatiques avec des pays occidentaux. Ce sont des gens qui ont plutôt bonne presse. Alors que les hongkongais, s'ils n'ont pas de passeport étranger, c'est très difficile pour eux. Leur passeport, c'est un passeport chinois. Et eux, ils voient peu d'espoir parce qu'ils sont, si vous voulez, ils font partie du rouleau compresseur chinois. Et ils ont, de l'autre côté de ce qui reste de frontière entre Hong Kong et la Chine, il y a une énorme zone économique qui est en train, en fait, de manger Hong Kong et non l'inverse. Autrefois, c'était l'inverse.
Une dernière chose dont je voudrais qu'on parle ensemble, Philippe Lecor, on a entendu les félicitations des États-Unis à cette élection-là. Je crois que c'est même le vice-président,
le secrétaire d'État Pompeo.
Pompeo, on se souvient qu'il y avait eu ce fameux coup de fil de Trump. C'était juste après son élection, avant même son investiture. Mais enfin, quand même, le message, il est très clair. Est-ce que c'est un message des Américains qui disent à Taïwan, attendez, vous pouvez vous passer de regarder du côté de la Chine, regardez plutôt de notre côté. Au moins, cette fois, il n'y a pas d'erreur politique dans ce coup de fil-là.
Non, il n'y a pas d'erreur. Je pense que c'était un vrai faux coup de fil. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les républicains sont toujours plus favorables à Taïwan. Vous avez eu aujourd'hui des blocages de crédit de vente d'armement à Taïwan. Mm-hmm. Vous avez des ministres américains qui vont à Taïwan. La présidente qui est passée à Hawaï. Vous avez quand même beaucoup plus d'échanges. Donc Taïwan se sent beaucoup plus soutenu qu'elle ne l'était il y a quelques années. Parce que Madame Tsai n'est pas dans la provocation. Certes, elle représente un parti plutôt autonomiste, mais elle ne cherche pas à provoquer Pékin.
Elle fait peur à personne. En fait.
Et bien entendu, on sait bien que s'il y avait une guerre entre Taïwan et la Chine, on sait bien qui gagnerait. Ceci dit, ce serait pas forcément une bonne affaire parce que ce serait un bain de sang et les gens reprocheraient ensuite à Xi Jinping d'être responsable de ce massacre parce que les Taïwanais ont quand même 350 avions de combat, un peu vieillissants, mais ils en ont. Et puis une île, c'est pas facile à prendre. Donc c'est un vrai sujet pour les analystes stratégiques, et notamment au Pentagone où on se prépare éventuellement à une guerre. Et de ce côté-là, on peut dire que la présence américaine dans le Pacifique est en partie destinée à défendre Taïwan, y compris au Japon, à Okinawa, où vous avez une présence navale américaine très importante. Donc je crois qu'effectivement, le soutien de Trump et des États-Unis a un petit peu porté Madame Tsai à la victoire. Ça a donné une nouvelle confiance aussi aux Taïwanais.
Et on imagine l'agacement de Xi Jinping dans le même moment. Merci beaucoup Philippe Lecor, merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde et ça se passe à Bombay, qui a une véritable forêt urbaine menacée par l'expansion immobilière. Le bruit du monde, la suite, et vous, Amélie Perrier, sous les radars avec un gigantesque rassemblement musulman au Bangladesh.
Oui, le deuxième pèlerinage au monde pour les musulmans. Effectivement, des millions de personnes sont venues ce week-end tout près de Dakar.
Le monde selon Trump, saison 3. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
Qu'est-ce que Mme Merkel vient faire dans la politique américaine?
C'est une bonne question. On a un procès en destitution qui se prépare, la situation avec l'Iran et puis cette présidentielle américaine. Mais à quoi on s'intéresse ici? Eh bien, au prince Harry, à Meghan Markle qui s'apprête peut-être à quitter le Royaume-Uni.
Et on verra ça ensemble, le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc
Léviette, Four. Léviette, salut à vous.
Alors, les faiseurs de paix, ce sont les Russes
désormais? Mais oui, Poutine cherchait l'erreur. C'est désormais en Libye comme ailleurs, l'homme qui distribue les cartes. Le faiseur de paix, en effet.
À tout de suite, les amis. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Austin, Texas avec les Black Pumas. Confine, c'est dans la playlist de France Inter. Le bruit du monde est en Inde ce soir et le bruit, ce serait plutôt celui des marteaux-piqueurs derrière celui des protestataires que vous entendez. Nous sommes à Bombay. Bombay et ses gratte-ciels, Bombay et son poumon vert, aussi les 1300 hectares de la forêt d'Arrée, une immense réserve de biodiversité pour Bombay et ses 30 millions d'habitants. Mais sous la pression foncière, cette jungle urbaine est aujourd'hui cernée, grignotée de toutes parts. Des milliers d'arbres récemment ont été abattus pour faire une ligne de métro. Et depuis des mois, les habitants de Bombay protestent. Ils veulent sauver cette forêt à l'intérieur de leur ville. Et c'est ce que nous raconte Kumbastin.
Au milieu des arbres de la forêt d'Arrée, les manifestants font face aux forces de police. Même si beaucoup d'entre eux ont été arrêtés, ils veulent continuer la lutte pour ce poumon vert situé au cœur de Bombay.
C'est ici que la Mumbai Metro Corporation veut construire le terminus d'une ligne de métro. Et c'est contre cela que nous manifestons. Depuis deux mois, nous nous rassemblons ici tous les dimanches. Nous formons des chaînes humaines et nous protestons contre ce dépôt de train.
Pourquoi cette détermination des militants ? Au petit matin, le biologiste spécialiste de la vie sauvage, Anand Pendarkar, nous a donné rendez-vous à l'orée de la forêt pour découvrir l'écosystème qu'elle abrite.
À la minute où nous sommes entrés dans la forêt, la température est descendue de 4 à 5 degrés. La verdure et l'humidité régulent la température de la ville. C'est aussi un puits de carbone. Les collines, au loin, amènent l'eau jusqu'ici durant la saison des pluies. Et c'est ce qui évite à la ville d'être inondée. Cela tombe donc sous le sens qu'il ne faut pas bétonner cette zone éponge. Ces 20 dernières années, nous avons listé 1147 plantes et animaux différents ici. Ici, vous pouvez voir les éraflures d'un léopard. C'est comme ça qu'il marque son territoire.
Dans la forêt, je rencontre Prakash Bor, un porte-parole des peuples tribaux qui lutte contre la disparition progressive de son habitat naturel.
Je vis ici depuis toujours. Nous, les Adivasis, sommes les premiers habitants de ces lieux. Cela fait tellement de générations que nous habitons la forêt que nous en avons perdu la trace.
Là, on voit des buildings qui sont vraiment à quelques dizaines de mètres de votre maison. Est-ce que vous avez peur de devoir déménager prochainement ?
On nous dit souvent que nous serions plus en sécurité dans des grands immeubles comme ceux-ci. Mais ce sont justement d'eux qu'il faut nous protéger. Pour nous, Dieu et la nature ne font qu'un. Nous vénérons les arbres et les différents projets qui ont peu à peu été introduits dans la forêt la détruisent.
Les peuples tribaux ne sont pas seuls. Des citoyens de toute l'Inde ont pris fait et cause pour la défense des arbres d'Arrée. Activiste et blogueuse environnementale, Nirali Vaidya a lancé une pétition rassemblant 700 000 signatures pour un autre tracé de la ligne de métro.
Au fil du temps, on construit sur les rivières, les forêts sont sacrifiées pour des projets de développement, les collines sont occupées par des bidonvilles et des promoteurs immobiliers. Ma pétition a reçu des soutiens non seulement depuis Bombay, mais depuis toute l'Inde, depuis toute la planète, pour sauver cette dernière forêt urbaine des griffes du développement. Personne n'est contre le métro. Bien sûr, les transports publics permettent de limiter les émissions de CO2, mais comment allons-nous produire l'oxygène que la forêt fournit à la ville ?
Après avoir été déboutée par la haute cour de Bombay, la militante Amrita Bhattacharjee a porté plainte auprès de la Cour suprême indienne qui a décrété un moratoire sur la déforestation jusqu'en décembre. Pour elle, pas de doute, ce métro n'est qu'un prétexte.
À chaque fois qu'un tel projet d'infrastructure s'installe quelque part, on voit de grands projets immobiliers se développer. Et on dirait bien que c'est le plan ici aussi. Il n'y a pas tellement de gens qui vivent ici. Il n'y a donc aucun besoin d'une station de métro.
À moins de vouloir justement développer la zone.
Exactement. C'est donc clair qu'il doit y avoir des intentions de développement futur.
Inquiète de pouvoir encore habiter Bombay dans 20 ans, la nouvelle génération est en première ligne pour défendre la forêt. Ishpriya Kaur, 20 ans, a lancé un mouvement étudiant baptisé « Combat pour un avenir juste ».
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un rapport et nous a mis en garde. Mumbai est une ville côtière, très proche du niveau de la mer. Il est prévu que la ville soit inondée et complètement détruite d'ici 2050. C'est donc positif qu'il y ait eu ce mouvement autour d'arrêt, car ça a permis à la jeunesse de s'instruire sur tout cela.
Suite à un renversement d'alliance, un nouveau Premier ministre vient de prendre la tête de l'État de Bombay. Il a annoncé que les travaux pour la ligne de métro dans la forêt d'Arrée allaient prendre fin et que toutes les poursuites judiciaires contre les citoyens arrêtés étaient levées. Les militants ont salué cette décision, mais la vigilance reste de mise. Les projets de zoo, de réhabilitation de villages et de gratte-ciel sont toujours d'actualité. Le combat entre la jungle urbaine et la jungle d'Arrée ne fait sans doute que commencer.
Comme Bastin, en Inde, pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. À très très vite, vous nous donnerez des nouvelles de cette jungle d'arrêt et de cette bataille-là. Et il se passe quoi sous les radars pour le bruit du monde? Eh bien ça. Le bruit du monde, Amélie Perrier.
Oui.
C'est celui des trains bondés qu'on entend ici.
Exactement.
C'est quasiment une image d'Épinal au Bangladesh.
Ce que l'on sait moins, c'est que tous ces Bangladais envahissent les trains, montent sur les toits, se tiennent en équilibre sur les marchepieds pour atteindre Tongi, pour participer en fait au deuxième plus grand rassemblement de musulmans au monde, car on estime qu'il rassemble 5 millions de musulmans. Alors ici, c'est l'une des prières suivies par des centaines de milliers de fidèles ce week-end, serrés les uns contre les autres sur des hectares et des hectares. Ils viennent de partout, au Bangladesh, mais aussi du monde entier. D'où le nom du rassemblement, Bishwa Ijtema, qui en bengali veut dire la congrégation mondiale. C'est donc le deuxième plus grand rassemblement. Vous savez qui est le premier grand rassemblement de musulmans au monde?
Je veux dire la Mecque, mais vous allez me dire pas du tout.
Effectivement, c'est pas la Mecque en Arabie Saoudite, qui est un des cinq piliers de l'islam, ce pèlerinage. C'est pour ça qu'il est si important et rassemble environ 2 millions de croyants. Non, en fait, le premier, c'est en Irak, c'est à Karbala, le pèlerinage d'Arbaïn, 15 à 20 millions de fidèles. Mais retournons au Bishwa Ijtema, au Bangladesh, en périphérie de Dhaka, la capitale, où c'est une ville de tentes qui se monte le temps d'un week-end pour accueillir tous ces musulmans. Les fidèles se massent jusque sur les toits des bâtiments pour suivre la prière. Des cérémonies de mariage collectif ont lieu. Une centaine de couples se sont dit oui samedi, nous rapporte le Dhaka Tribune. Et ce week-end n'a été qu'une première phase. Le pèlerinage est désormais organisé sur deux week-ends, espacés de 4 jours, pour pouvoir accueillir tout le monde. Les départs hier soir du site ont donné lieu à des scènes dantesques, des bouchons monstres, des taxis et des chauffeurs de bus qui ont fait exploser les prix des transports.
Allez, direction le Montana. Amélie, pour l'un des parcs naturels emblématiques des États-Unis, celui de Glacier.
Oui, nous sommes donc tout au nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Canada, un parc surnommé la couronne du continent, une couronne de dizaines de glaciers, des centaines de lacs et des milliers d'espèces animales et végétales, un des écosystèmes les plus préservés du pays. Un environnement très fragile, on s'en rend compte depuis des années. Écoutez cet archive, c'est le journal de 20h de France 2, septembre 2003, reportage de Diego Garcia.
C'est l'un des parcs nationaux les plus populaires d'Amérique du Nord. Nous sommes au Montana, près des montagnes rocheuses. Ici passent plus d'1,5 million de visiteurs tous les ans. Mais le changement climatique pourrait bien avoir raison de toutes ces merveilles de la nature.
Nous estimons qu'il y a à peu près 26 glaciers aujourd'hui, alors qu'en 1968, ils étaient 37.
Voilà, il y a une dizaine d'années, des panneaux étaient installés dans le parc pour annoncer la disparition totale des glaciers d'ici 2020. Et 2020, c'est aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les glaciers sont encore là, encore un petit peu. Ils ont quand même perdu 85% de leur taille en un demi-siècle, nous dit une étude de 2017. L'agence nationale qui s'en occupe affirme, grâce à de nouvelles projections, que la fonte complète n'aura pas lieu aussi rapidement. La mauvaise nouvelle, c'est que l'environnement n'est plus du tout la priorité de la Maison Blanche sous Donald Trump. Les budgets d'entretien des parcs ont été revus à la baisse. Et le comble de l'histoire ici, c'est que le parc n'a pas les moyens de changer tous les panneaux annonçant la fin des glaciers en 2020. Toutefois, on a déjà rédigé le message des futurs panneaux quand les crédits seront débloqués pour les payer. Je vous les lis. La date de la disparition des glaciers, la disparition complète dépend de comment et quand nous agirons. Les glaciers existent depuis des millénaires et vont disparaître dans quelques décennies, ça c'est sûr. Et tout le monde le regrette aujourd'hui. Au-delà du Montana, en Islande, par exemple, le premier glacier vient de disparaître. Les scientifiques ont organisé ses funérailles symboliques et ont annoncé un sort similaire à tous les autres glaciers islandais dans les 200 prochaines années.
Allez, on vous présente une femme pour terminer, Amélie, dont le parcours résonne avec un écho particulier dans le contexte d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'elle est américano-iranienne. Elle s'appelle Jasmine Mokbeli. Elle est devenue astronaute à la NASA vendredi dernier. Jasmine est la première astronaute américaine d'origine iranienne. Elle a 36 ans. Ses parents iraniens ont fui la révolution islamique en 1979. Dans sa vidéo de présentation de la NASA, elle raconte. Depuis que j'ai 6 ans, je veux devenir astronaute. En 6e, j'ai fait un exposé sur Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Et on devait s'habiller comme la personnalité de notre devoir. Alors, ma mère m'a aidée à confectionner une petite combinaison spatiale. Voilà, elle a suivi un cursus exemplaire, hein, diplômée du MIT. Elle s'engage ensuite dans l'armée, dans les Marines. On la surnomme Jaws, depuis qu'elle s'est coincée la mâchoire, Jaws en anglais, pendant une mission en hélicoptère en Afghanistan. Ouais, c'est une dure à cuire, hein. Jasmine vient de terminer 2 ans et demi de formation à la NASA et fait partie d'une promotion où, enfin, l'agence spatiale veille à respecter la parité homme-femme et des origines très diverses. À propos de ses origines iraniennes à la NASA, je n'ai pas du tout senti que j'étais traitée différemment, a-t-elle répondu simplement la semaine dernière.
Voilà, mais on l'appelle Jaws. Qui veut dire donc, technique, les dents de la mer.
Les dents de la mer.
Donc c'est tellement aimable.
Son site, c'est Astro Jaws.
Super, ça fait super peur. Amélie Perrier, Le Bruit du Monde, merci beaucoup. On se retrouve demain. Allons faire un tour au Brésil. Tiens, Chico Buarque sur France Inter.
Que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Chico Buarque sur France Inter. Allez, on reste sur le même continent, mais plus au nord. Allez, on monte, on monte.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
C'est vrai qu'on monte très haut quand même. Le Monde selon Trump, saison 3, avec Grégory Phillips. Grégory, vous avez une situation iranienne qui est un petit peu compliquée. Vous avez un procès en destitution. Vous avez une présidentielle qui va commencer. Mais ce qui agite en ce moment votre pays, et d'ailleurs tout le Commonwealth, c'est le désir d'indépendance du prince Harry et de son épouse Meghan. Et même à la Maison-Blanche, on suit ça de près.
Oui, alors d'abord, toute cette affaire passionne la presse américaine qui généralement s'intéresse beaucoup à la famille royale britannique. Et puis en plus, Meghan Markle est américaine. N'oubliez pas, née à Los Angeles. La semaine dernière, il y avait cette une du New York Post, le Megxit, contraction de Meghan et Brexit.
Et puis effectivement,
évidemment. Et puis effectivement, Donald Trump s'en est mêlé vendredi dans une interview accordée à Fox News. J'ai beaucoup de respect pour la reine. Elle ne mérite pas cela, a commenté le président américain. Vous voyez donc Trump très attentif à cette histoire. Faut dire qu'en 2016, la future duchesse de Sussex avait fait savoir qu'elle ne voulait plus vivre aux États-Unis si Donald Trump arrivait au pouvoir, ce à quoi il lui avait répondu plusieurs mois plus tard qu'elle était nasty, méchante. Vous voyez, on est quand même là dans les hautes sphères des relations internationales. Harry et Meghan, qui s'ils décident de revenir en Amérique, pourraient d'abord choisir le Canada et un peu plus tard aller s'installer en Californie.
Allez, en attendant de savoir donc quand, comment et où Meghan et Harry vont débarquer chez vous, l'actualité cette semaine, évidemment, c'est le procès en destitution qui se rapproche. C'est quand ? C'est la semaine prochaine, c'est ça ?
Oui, alors ça va s'accélérer maintenant. Normalement, demain ou après-demain, Nancy Pelosi va transmettre au Sénat les deux chefs d'accusation qui pèsent sur Trump. Abus de pouvoir, entrave au fonctionnement du Congrès. Ensuite, la Chambre des représentants va désigner les élus qui serviront de procureurs pendant ce procès en destitution, qui donc pourrait débuter peut-être en milieu ou fin de semaine prochaine. C'est pas encore très clair. En tout cas, ce sera ici à Washington au Sénat. Écoutez ce que disait Nancy Pelosi hier matin sur ABC.
Nous sommes certains de notre dossier, certains que ce président mérite d'être mis en accusation, et ce, à vie. Quelles que soient les manœuvres du sénateur Mitch McConnell, nous pensons qu'il y a assez de preuves pour que Trump soit destitué. Les Américains veulent connaître la vérité, et pourquoi les Républicains ont-ils peur de cette vérité ?
Sauf Fabienne, on l'a dit évidemment et répété, au Sénat, il n'y a quasiment aucune possibilité que Trump soit destitué. Il faut un vote aux deux tiers. Sénat majoritairement républicain, il faudrait qu'en gros une vingtaine de sénateurs conservateurs lâchent le président. Ça paraît vraiment très improbable. Mais bon, donc sans doute la semaine prochaine, on va vivre quelque chose d'historique sur Capitol Hill. Dans toute l'histoire des États-Unis, le troisième procès en destitution pour un président. Procès court ou long, on ne sait pas. Avec quel témoin, on ne sait pas. Il y a eu un moment la volonté... Côté républicain et du côté de la Maison-Blanche de peut-être faire traîner un peu ce procès pour parasiter la primaire démocrate qui débute dans une vingtaine de jours maintenant.
Allez, on y viendra bien justement à cette primaire démocrate. Allons-y, bientôt le premier caucus donc dans l'Iowa, ce sera le 3 février, avec un Bernie Sanders qui est maintenant en tête des sondages alors.
Oui, le sénateur du Vermont, qu'on disait affaibli il y a quelques mois encore après un accident cardiaque, est en pleine forme et c'est désormais lui qui est en tête des sondages dans cet état de l'Iowa qui va être le premier à se prononcer. Pareil dans le New Hampshire où pour l'instant le candidat socialiste devance ses adversaires, donc on verra bien. Biden toujours en tête des sondages nationaux, mais vous savez, tout ça va se préciser maintenant assez rapidement. Demain soir, 7e débat démocrate et puis 3 février, caucus de l'Iowa, 3 mars, super Tuesday avec notamment le vote des délégués californien. Un mot pour vous dire que dans cette course à l'investiture démocrate, on apprend ce soir le retrait du sénateur du New Jersey, Cory Booker. Sa campagne s'essoufflait tant au niveau des collectes de fonds que dans les sondages.
Voilà. Allez, un dernier mot avant de se quitter, Grégory. On a entendu tout à l'heure dans le journal d'Amélie la liste des films nommés aux Oscars. Pas trace de Trump, mais d'un certain Obama.
Eh oui, Barack Obama, producteur pour Netflix, American Factory, qu'il avait produit avec son épouse Michelle, est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur documentaire. Et au moment où on se parle, eh bien, Fabienne, pas de réaction de Donald Trump.
Et c'est bien étonnant, Grégory. Normalement, il vous écoute tous les lundis. Allez, à lundi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, les deux rivaux en guerre en Libye se trouvaient aujourd'hui à Moscou pour entériner un probable arrêt des combats. C'est en soi le symbole d'un monde qui change. Désormais, ce n'est plus sous une égide américaine que la paix se négocie, mais bien sous l'égide de la Russie de Poutine. Et c'est votre monde à l'envers.
Oui, souvenez-vous, il fut un temps où la paix se décidait à Camp David, près de Washington, où nous étions à l'instant. On pense évidemment aux accords israélo-égyptiens de 1979 ou israélo-palestiniens de 2000. 20 ans plus tard, c'est donc désormais à Moscou que la paix se discute. En ce sens, tout est dit. Il faut un peu imaginer la géopolitique comme une table de jeu géante. Et à cette table, aujourd'hui, le joueur qui distribue les cartes, c'est Poutine. Prenons le cas de la Libye, en effet, c'est exemplaire. Depuis 5 jours, le président russe a vu ou appelé tous les leaders internationaux intéressés au conflit. Et c'est donc sous sa houlette, chez lui, que se sont ouvertes les discussions sur un arrêt des combats. 7 heures de négociations non-stop aujourd'hui, entre d'un côté le gouvernement légitime de Fayez al-Sarraj et de l'autre les forces rebelles du maréchal Haftar. Depuis 9 mois, cette guerre civile a fait plus de 2000 morts. 150 000 déplacés. Et aujourd'hui, Moscou dit stop. Ça vaut aussi pour la Syrie. La Russie vient d'y imposer un cessez-le-feu dans la région d'Idlib, se comporte comme une force d'interposition entre Turcs et Syriens dans la zone de Manbij, le rôle que jouait auparavant qui ? Les États-Unis. Ça pourrait presque valoir pour l'Iran, où Moscou n'est pas loin de se poser en médiateur entre Washington et Téhéran. En fait, Poutine distribue les cartes parce qu'il parle à tout le monde, au Proche-Orient, à ses alliés traditionnels, la Syrie d'Assad, comme aux alliés des États-Unis, Israël ou les Émirats.
Et puis il y a un autre acteur majeur, et on le voit bien, c'est la Turquie.
Oui, c'est l'autre acteur qui reste assis à la table de jeu, à la fois adversaire et partenaire de la Russie. Poutine et Erdogan semblent s'entendre pour faire monter les enchères, écarter les autres joueurs de la table de poker. C'est comme au jeu, ils se répartissent les rôles pour mieux se répartir les gains. en Libye. Turcs et Russes ne soutiennent pas le même camp, mais peu importe. Comme ils sont l'un et l'autre investis financièrement et militairement, ils tirent les ficelles. Résultat des courses, le cessez-le-feu n'est pas annoncé par les belligérants libyens eux-mêmes, mais par Poutine et Erdogan la semaine dernière à Istanbul. La Turquie, c'est l'autre parrain des négociations de Moscou. En Syrie, même topo, le cessez-le-feu à Idlib dont je parlais est le fruit d'un accord russo-turc. Et puis les deux pays partagent évidemment des intérêts économiques. On pense en particulier au nouveau gazoduc Turk Stream qui va permettre au gaz russe d'approvisionner la Turquie et l'Europe. Erdogan et Poutine s'entendent malgré des siècles de rivalité entre leurs pays respectifs. Ils s'entendent parce qu'ils ont le même logiciel, même autoritarisme politique, même dirigisme économique, même machisme. Ils se sont rencontrés en tête à tête, tenez-vous bien, plus de 20 fois lors des deux dernières années. Ça veut dire qu'ils se voient tous les mois en fait. Cet axe eurasien, Moscou-Istanbul, est en train de supplanter, oui, la Pax Americana dans toute cette région du monde.
Et donc les États-Unis, les Occidentaux,
ben, ce sont les joueurs qui se retirent de la table de jeu. Au poker, on dirait qu'ils se couchent. En tout cas, ils ne suivent pas les enchères. Il y a d'ailleurs là un paradoxe parce que ce sont souvent eux, les Occidentaux, qui ont ouvert la partie. Exemple, évidemment, en Libye, où la situation actuelle n'est que la conséquence de l'intervention de l'OTAN en 2011 et de la chute de Kadhafi qui s'en était suivie. Du point de vue russe, d'ailleurs, l'Occident, c'est le premier responsable du chaos en Libye. En tout cas, aujourd'hui, les États-Unis ne veulent plus jouer. L'objectif de Trump, on le sait, c'est d'abord le retrait, tous azimuts. Et les rares fois où il joue encore, c'est pas comme un médiateur faiseur de paix, c'est plutôt comme le protagoniste d'un conflit, voire la guerre larvée avec l'Iran. Du coup, les Européens, eux, ils sont perdus sans leur parrain américain, dont ils n'ont pas fait le deuil, on en a déjà parlé ici. Et ces Européens, ils ne veulent pas s'investir dans une stratégie de puissance, donc en quelque sorte hors-jeu également. On notera d'ailleurs que les Russes sont suffisamment adroits pour n'humilier personne. Les négociations de Moscou sur la Libye seront donc suivies d'une conférence de paix dimanche prochain en Allemagne. Soyons magnanimes avec les Européens. Et c'est comme ça, d'abord en profitant des erreurs et du désengagement occidental, que Moscou, finalement, à peu de frais militaires, se retrouve dans la position du faiseur de paix, du faiseur de roi dans la région. La nature a horreur du vide. Les joueurs qui sont restés à la table sont donc maîtres du jeu.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis juste après, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.